suite, c'est Pierre-Louis Basse. Faites comme chez vous.
Oui, salut à Pierre de Villeneuve. Voilà donc près de 2 mois que les hostilités ont été déclenchées. 25 000 milliards de dollars volatilisés depuis le 15 septembre. Où en est notre morale, votre morale? Avez-vous envie de voyager? Avez-vous envie tout simplement de vivre, de partager encore avec votre voisin? Supportez-vous votre banquier? On va essayer de comprendre tout cela avec des invités. Vous le verrez, très compétents. 1h-10, Canteloup, bien sûr, le best-of. 13h15, à placer d'extrême urgence, je vous le disais à midi, au pied d'un sapin de Noël, vous serez en avance. Marin de Véry publie chez Lattès Le matin des abrutis, hilarant, juste, effrayant, contemporain, on va se régaler. Je recevrai également Jean-Jacques Rebout, romancier, qui n'a toujours pas digéré, se retrouver un beau jour de juillet 2006, plaqué au sol par des policiers du côté de la venue de Clichy. Et puis vous le savez, si vous avez écouté les journaux et vous les avez écoutés, le soldat Strauss-Kahn est blanchi, le directeur du Fonds monétaire international. Donc pas de harcèlement, pas davantage de favoritisme, ni abus de pouvoir. Mais nous, dans une dernière partie, entre 13h35 et 14h, 13h40 et 14h, eh bien nous verrons, nous passerons à la loupe le sexe, la politique, l'alcôve et le pouvoir. Et nous verrons sans doute que cette affaire est vieille comme le monde. Je n'oublie pas le Remember de Dora. L'explorateur Jean-Louis Etienne a choisi Lou Reed, Walk on the White Side. Il se souvient de cette chanson. A tout de suite, c'est fait comme chez vous. Voilà, où en sommes-nous avec notre morale, sachant que la crise, je le disais, a réellement débuté depuis maintenant près de 2 mois. On pense notamment à ce fameux lundi 15 septembre et l'effondrement de Lehman Brothers. Je salue Patrick Visseria qui est là. Bonjour Patrick, président de l'Association des experts et des scientifiques du tourisme. Vous nous direz si on a envie de voyager. C'est une période où on rend hommage aux anciens, à ceux qui nous ont précédés, mais on a peut-être aussi envie de partir en cette période de novembre. Xavier Guillou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de XAC Conseil, consultant en gestion de crise. Vous en avez couvert une palanquée, comme on dit chez moi, une quarantaine de crises internationales, de Kobe à Katrina. Et vous allez nous dire un petit peu comment on doit vivre ces moments. Et surtout, sont-ils durables? Et Dominique Desjeux, bonjour Dominique.
Bonjour.
Anthropologue et sociologue de consommation qui vient également assez régulièrement nous voir. Je salue Amandine Alexandre. Bonjour Amandine, qui nous fait la gentillesse d'être en direct avec nous depuis Londres, qui est notre correspondante à Londres, et qui va nous dire des choses, d'ailleurs, tout de suite, Amandine. J'ai l'impression, le sentiment que chez vous, je dis pas qu'on vit ça tranquillou, qu'on accepte les fat cats, les gros banquiers facilement, mais on s'inquiète pas, on assume la flexibilité. C'est ça, Amandine, hein.
Oui, c'est vrai qu'on a le sentiment qu'ici, en fait, les Britanniques acceptent plutôt bien, étant donné quand même la crise qui a secoué la City notamment, accepte plutôt bien que l'économie, eh bien, qu'elle ait des hauts, qu'elle ait des bas, et qu'en ce moment commence une période difficile, parce qu'on est presque au bord de la récession ici, l'emploi va mal, le chômage augmente, mais on se dit que demain, eh bien, ça ira mieux. Et bon, peut-être aujourd'hui, eh bien, on perd son job à la City, un job bien payé, mais on va faire autre chose, on va se reconvertir, pourquoi pas devenir plombier, créer sa propre entreprise, et puis dans quelques années, eh bien, peut-être qu'on retournera dans une grosse entreprise, et on espère en tout cas que ça ira mieux.
Oui, il y avait des souffrances ponctuelles et très fortes. Je pense en particulier, Amandine, aux années Thatcher, avec une refonte vraiment très très profonde du système à la fois social et industriel. Et c'est vrai qu'il y a eu des grèves très importantes, des mouvements, mais pas une levée de bouclier général.
En fait, il y a une amertume. Il y a une amertume quand même envers le gouvernement. On dit, est-ce que Tony Blair, Gordon Brown, est-ce qu'ils n'ont pas laissé les banques finalement trop libre, mais il y a aussi, en fait, on se dit aussi ici que les consommateurs, les Britanniques eux-mêmes, ont quand même beaucoup profité du système, c'est-à-dire que ils se sont endettés, ils ont acheté des maisons, souvent ils n'avaient pas les moyens véritablement de payer ces crédits, et ils se disent maintenant, finalement, nous aussi on a pêché, ici, eh bien, les dettes des ménages sont extrêmement importantes, même plus encore qu'aux États-Unis. Les Britanniques sont les plus endettés de tous les pays riches, et ils se disent finalement cette crise, elle est peut-être salvatrice. On a un peu abusé du système, nous aussi. C'est vrai qu'on nous a incité à dépenser beaucoup d'argent. Et bien maintenant, il va falloir qu'on change notre façon de consommer. Et il va falloir peut-être qu'on arrête de dépenser de l'argent qu'on n'a pas.
Oui, en quelque sorte, nous fait le résumé du fighting spirit, celle qu'on pouvait le décrire dans les dernières lignes droites. Ils sont toujours très forts, les Anglais. Je voudrais quand même, et tu restes avec nous, pour vous tous, que vous écoutiez cette petite réaction d'employés de chez Renault. On rappelle que des sites sont fermés pendant plusieurs semaines, plusieurs sites, une demi-douzaine chez PSA. Écoutez ces réactions, elles sont tout de même très révélatrices du climat.
On fait travailler les gens en Slovénie, en Roumanie ou en Turquie, et en fait, puis ici, on n'a plus de boulot, quoi. C'est quand même assez triste, hein, surtout quand on a passé 40 ans là-dedans.
On subit, mais faut remonter les manches, hein, puis espérer que ça aille mieux plus tard. Je pense que ça doit aller vraiment mal pour qu'ils prennent cette décision-là. Hein.
C'est-à-dire ceux qui se foutent de notre gueule. Ça va durer plus longtemps. Là, les signes, ils sont là. Quels sont les signes? C'est les postes. Il y a moins de gens. Là, il n'y a plus beaucoup. Ils enlèvent tous les intérimaires. On cherche ailleurs.
Bah, pour l'instant, ça va parce qu'on est payé. Le jour qu'on ne sera pas payé, ça sera autre chose.
Voilà, c'est clair. Alors, à nous, à vous, Xavier Guillou, vous dites... La vague va forcément, elle ne s'est pas encore élargie. Hein, on est en train de l'apprendre, mais on n'est pas dans l'écume. Et à un moment ou à un autre, on va l'apprendre. Ce qui est sûr, Xavier Guillou, c'est que tout le monde en parle. Oui. Les voisins, les taxis, les commerçants, tout le monde. Oui. Chaque jour.
Vous savez, ça me fait penser aux enseignements que j'ai tirés de Katrina, hein, qui est une crise que j'ai bien connue et qui est bien décortiquée. Tout le monde avait conscience que c'était un ouragan. Hein. Du reste, même Paulson et Greenspan aujourd'hui utilisent ce terme-là depuis la semaine dernière pour parler de la crise financière. Tout le monde s'était préparé à un ouragan, mais comme c'était un ouragan normal, quoi. Et donc tout le monde s'est préparé au vent et à la pluie cyclonique. Sauf que dans un cyclone de niveau 4 ou de niveau 5, l'élément dimensionnant, c'est pas la pluie et le vent, c'est la mer. Et qui arrive toujours avec un temps de retard. Et là, c'est un petit peu ce que l'on a. Si vous voulez, tous ceux qui ont l'habitude un petit peu de ces météos financières se disent, bon, bah, on s'est tous préparés pour pouvoir lutter contre des bulles spéculatives, donc une bulle immobilière. Le plan Paulson, les plans européens, etc., font face à une bulle immobilière. Mais l'élément dimensionnant aujourd'hui, c'est la vague qui arrive.
Oui, enfin, celui qui bosse chez Renault, la spéculation, il ne connaît pas.
Non, il ne connaît pas, mais il pressent qu'on n'est pas face à un ouragan ordinaire, qu'on est face à quelque chose de beaucoup plus ample. Et la vague qui arrive, c'est le repli des hedge funds, c'est la crise du revolving aux États-Unis, c'est un certain nombre de facteurs qui sont liés à toute cette, à la fois la récession, la perte de confiance, un certain nombre de mécanismes qui sont liés à cette crise qui n'est pas une crise simplement de bulle spéculative, mais qui est une crise du hors-bilan. C'est-à-dire toute cette société que nous avons créée depuis 20 ans, 30 ans, et c'est bien ce qui ressort de l'interview qui vient de Londres là, et qui, à mon avis, est le point central de l'analyse de cette crise, de la qualification de cette crise, c'est que c'est tout un mode de société qui est en train de s'écrouler, un mode de société qui s'est fabriqué uniquement sur du virtuel, de la surenchère et de la spéculation.
On aura une autre question très précise à poser à Amandine, Dominique Desjeux et Patrick Visseria. 0,6 d'augmentation de points de la consommation, c'est curieux, ça paraît, ça ressemble à profitons-en avant d'être engloutis, non, c'est ça?
Non, j'y crois pas du tout.
À l'engloutissement?
Non. Enfin, je vais vous dire à quoi je crois, parce que aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de preuves. C'est bien étayé sur des indices, mais je crois pas qu'on sache grand chose de près. Moi, je pense qu'on va assister, on est en train à trois demandes, ou à trois types de comportements. Le premier, c'est de plus de demandes d'État. Je suis très frappé par ça. À chaque fois qu'on a de l'incertitude, pensez simplement à l'époque de la crise de 29, quand Roosevelt est arrivé en 32, eh bien, il y a eu plus de demandes d'État et il a monté un certain nombre de choses. Je ne discute jamais de l'efficacité ou non, parce que comme toujours, quand il y a une demande d'État, une régulation, il y en a qui vont y gagner, il y en a qui vont y perdre. Actuellement, on parle de Bretton Woods 2, pourquoi pas?
Demande. En tout cas, vous serez d'accord avec nous là-dessus. Monsieur Roosevelt, en créant de fait une classe moyenne, il a quand même créé des conditions d'une belle prospérité pendant des années. Un beau bipartisme.
Simplement, ce que j'observe, c'est qu'effectivement...
C'est vrai ou c'est pas vrai?
Mais je vous dis une autre histoire très intéressante. Je lisais un bouquin qui s'appelle The Fattening of America, c'est-à-dire le grossissement de l'Amérique. Et dans ce bouquin très intéressant, mais ultra-libéral, je dis pas libéral, mais ultra-libéral, il dit si aujourd'hui on a de l'obésité aux USA, c'est pour pour montrer les limites de Roosevelt vues d'un point de vue ultralibéral. C'est de dire, si aujourd'hui on a de l'obésité aux USA, c'est parce que Roosevelt, pour aider l'agriculture, a aidé le maïs, et dans le maïs, comme on en a produit beaucoup, il a fallu le vendre. Et on a vendu des sous-produits qui sont des produits sucrés. Et donc ça a créé le diabète, dit l'auteur, par ailleurs.
Oui.
Donc ça, c'est...
Ce qui est embêtant, c'est que l'obésité, elle est surtout présente, vous le savez comme moi, dans les couches populaires, et qui se nourrissent mal.
En plus,
mais le sucré et salé pour les
sauf qu'aujourd'hui, quand on regarde l'obésité aux USA, c'est une force assez importante. Non, mais le point intéressant, c'est de se dire, attention, quand on parle de l'État et quand on parle de plus d'État, on parle d'un marché régulé, et il faut éviter les idéologies aussi bien d'ultra-libérales, qui n'ont pas de sens pour moi, que d'ultra-gauche, qui n'ont pas plus de sens. Mais il va y avoir deux autres phénomènes importants. Le deuxième, c'est qu'il y a une demande très forte de religion. On le voit à chaque fois. À travers du magico-religieux et, en fait, sur quoi on joue? Sur le destin. Et on verra peut-être, c'est pas vrai dans l'histoire. En 2005, par exemple, la Française des Jeux a fait une enquête et qui montre très bien qu'on n'a pas du tout augmenté le nombre de gains ou de jeux à cette époque-là. Les gens n'ont pas plus joué. Aujourd'hui, c'est possible qu'une fraction joue plus. On le voit en bourse. Ouais. La bourse en ligne, mettons, a augmenté. On est passé de 800 000 à 900 000 ou 1 million de demandes. C'est pas non plus énorme, mais c'est significatif. Et puis, il y a un troisième comportement qu'on va voir apparaître qui est très intéressant. On verra donc de l'excès. Je sais pas, le nombre de yachts de plus de 26 mètres à multiplier par 3 ou 4 aux USA, ça c'est assez classique. Dès qu'il y a une crise, le luxe n'est pas touché à peu de choses près. Mais on va voir aussi de l'économie, c'est-à-dire qu'ils vont être beaucoup plus économes, ils vont passer au chauffage au bois, ils vont moins rouler, ils vont prendre moins de vacances, on le verra tout de suite avec mon collègue. Mais troisièmement, on verra probablement une chose plus inattendue, parce qu'on n'y pense pas souvent, c'est la réactivation de solidarité familiale qui était en latence. Et on verra apparaître du troc, on verra apparaître des transmissions entre générations, etc. Donc c'est pas du tout une période entièrement négative, elle est surtout entièrement incertaine.
Je voudrais que Patrick Visseria nous dise si on va voyager tout de même. Mais si on est prêt à partir, là, à la fois la Toussaint, Noël.
Oui, alors Pierre-Louis, en fait, le secteur du tourisme est déjà touché depuis plusieurs mois, en fait, par la crise. Et en particulier, les groupes qui sont liés à des programmes immobiliers, eh bien, sont aujourd'hui fortement impactés. Il y a des plans de chômage qui sont déjà annoncés. Alors, pour autant, le tourisme, les vacances, c'est un secteur qui est très lié aux revenus. Quand on a confiance, quand on a de l'argent, on part en vacances. Et quand on a moins d'argent, je dis des banalités, on part moins et on réduit ses dépenses. Donc, c'est ce qui se passe, en fait, aujourd'hui. À court terme,
ça,
on peut dire...
Ça peut être d'autant plus spectaculaire si ce que vient d'expliquer M. Guillou se confirme. C'est-à-dire si la vague là, qui arrive sur la grève s'étale
voilà.
Jusqu'à Noël.
Parce que à court terme, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des comportements décalés sur la Toussaint, par exemple. On veut partir, l'ambiance n'est pas bonne, c'est morose. Donc on va faire de l'achat de dernière minute, de l'achat d'impulsion. Dans le vêtement, ben, on va s'acheter une robe ou un costume. Là, on va s'acheter un court séjour, un week-end. Par contre, ce qu'on commence à voir, c'est sur la Noël, les vacances de février, où on a déjà un remplissage, et en particulier sur le long courrier, qui est moins important que l'année dernière.
Amandine, tu es avec nous en direct de Londres. Quelle est la réaction générale dans la city face à ces traders? On les appelait il y a quelques années les Yuppies, puis bon, les Golden Boys. Bref, ces types qui sont tout de même gavés à coups de stress et aussi de baraques somptueuses. Quelle est la réaction? Il y a tout de même des tensions.
Mais moi, je dirais que les traders en ce moment font profil bas parce que ils n'ont pas vraiment le choix en même temps. Il y en a certains.
Ils traînent pas à la cantine de l'entreprise.
Non, ils vont dans les pubs à la sortie du bureau, et c'est histoire de se remonter le moral. Bon, ils y vont certainement un petit peu moins qu'avant. Mais il n'y a pas, enfin, moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait une remise en cause vraiment du système. Eux se disent, bon, il y en a certains, ça fait 20 ans peut-être qu'ils sont dans le système maintenant, sont fatigués, sont épuisés, arrivent au bout un petit peu de leur carrière, donc décident de se reconvertir. Et puis les autres, les jeunes, se disent, de toute façon, ça va continuer, le système ne va pas être réformé complètement. Gordon Brown a dit, je veux maintenant, on va arrêter de récompenser l'échec, c'est-à-dire qu'on va essayer de mettre en place un autre système, un système différent de celui des bonus, mais eux, pour l'instant, les jeunes n'y croient pas, disent, ce n'est pas possible, de toute façon, tout ça, ça se passe au niveau mondial, nous, si demain, à la City, on nous offre des bonus moins intéressants, ben on ira ailleurs, on ira en Asie, on ira dans les pays du Golfe, on restera pas là, mais pour l'instant, ils sont un petit peu incrédules, ils ont été ébranlés quand même par cette crise, mais ils pensent que, eh bien, après quelques mois, après un an, eh bien, tout va redevenir finalement comme avant.
Merci mille fois, Amandine, Alexandre. Xavier Guillou, il y a tout de même une chose passionnante, puisque vous, la crise, vous connaissez. On peut pas la voir venir, parce que, attendez, je vous pose une question. Il faut un crack pour qu'on nous dise, oh, ils sont pas gentils, ils partent avec 50 millions d'euros de parachutes dorés, on va les supprimer, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut un crack? Et dans les quartiers, il n'y a pas 5 milliards de dollars pour eux, mais il y en a des dizaines pour sauver les banques. Ils attendent qu'il y ait des... Que ça saigne? Dites-nous,
je pose la question. Je suis toujours effaré par cet écart que l'on enregistre à chaque fois qu'on est sur des crises hors cadre, ou même des crises mineures, entre ce qu'on peut diagnostiquer longtemps en avance. Moi, j'en ai parlé de cette crise il y a 4-5 ans. Je l'ai réaffirmé à un certain nombre de circuits de décision il y a un an et demi. Et en fait, tout le monde a commencé à se mobiliser le 15 septembre. Donc, tout le monde a commencé à s'affoler et à courir une fois que le vent arrivait sur la Nouvelle-Orléans, quoi. Hein. Alors que, c'est-à-dire, ça avait été diagnostiqué comme longtemps à l'avance. Alors, je voudrais revenir sur ce qui a été dit auparavant, parce que je crois qu'il faut éviter de faire la comparaison entre ce qui se passe à Londres et ce qui se passe chez nous. Ouais. Londres est très particulier, il y a une culture du risque, qu'on n'a pas chez nous. Hein. Nous, on a une aversion au risque, on va rechercher de l'État, ce travail de la résistance et de la résilience des populations.
C'est aussi ce qui nous protège.
Voilà. Oui, non. Enfin, moi, ça me rassure moyennement que l'État s'occupe des PME et des TPE, des commerçants et des artisans. Hein. Je vais vous dire, je préférais d'abord qu'il s'occupe de sa dette, de la dette de l'État et puis du déficit public avant de s'occuper de ce qui fait vivre le carrefour de mon quartier. En l'occurrence, là, on est plutôt parti pour ça. Hein. Donc, ça me rassure à moitié en termes de résistance et de résilience en tant que citoyen. Non, ce qui est important, c'est de voir quelle est la capacité de résistance des populations au choc et de résilience une fois qu'on a pris le choc, qu'on a des dégâts et qu'il faut reconstruire. D'accord. Et on le voit bien là chez les Anglais, les gars sont préparés, ils veulent pas subir la crise, ils sont préparés, ils sont prêts à y aller.
Parce que le travail d'acceptation de la flexibilité a été fait en profondeur depuis des années peut-être.
Voilà,
Dominique Desjeux.
On va le retrouver aussi chez les Chinois. Là, j'arrive de Chine, je vais assez régulièrement. Ouais. Mes collègues universitaires, donc c'est pas les gens les plus riches, ils sont pas pauvres non plus, hein. Mmh. Ont paumé 60%. C'est pas agréable, mais ils sont pas malheureux.
Non.
Il y a une espèce d'habitus, une espèce de culture du jeu tout à fait fascinante en Chine. Et si on perd, on va essayer de remonter après. Mais il y a une deuxième assiette sur laquelle je voudrais insister pour reprendre l'idée aussi de résilience. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les ménages vont résister ou pas résister à la crise? Alors, il y a 36 raisons, mais il y en a une qui est très forte. Pour moi, on sous-estime très souvent, en politique ou ailleurs, quelque chose de très important, c'est les arbitrages que doivent faire les familles en termes de couple, en termes de parents, ou si on est enfant ou jeune, par rapport à ses pères, à l'intérieur du ménage. Et notamment, il y a un gros arbitrage dans les coûts et le pouvoir d'achat, c'est les 8% de dépenses en moyenne pour tout ce qui est communication. Et ça peut monter, c'est la loi d'Engels qu'on connaît très bien pour l'alimentation, ça peut monter à 17% pour les familles les plus défavorisées. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'une famille aujourd'hui doit arbitrer dans son pouvoir d'achat avec des très fortes contraintes.
Patrick Visseria, peut-être qu'on partira effectivement davantage en famille, peut-être moins loin, hein, mais sur des liens plus intimes.
C'est ça. On a une capacité en fait d'adaptation, parce que notre secteur d'activité, le tourisme, comporte une grosse partie de non-marchands. Donc on peut penser que le non-marchand va en quelque sorte amortir l'impact de la crise. Et l'autre aspect, c'est probablement des vacances beaucoup plus près. Dans des installations à proximité des villes et des centres urbains.
Je suis sûr que vous vous êtes régalé de l'autre côté, hein, Muriel. On a passé un moment passionnant. Quand la France réagira, de Xavier Guillou chez Erol. Voilà, on évoquera encore cette crise forcément.
On aurait bien voulu que ça dure un peu plus.
Mais le temps n'est pas extensible, heureusement, cher ami. Oui. À tout de suite avec Cantelou.
Il est 12h51.